Je me suis dit, comme c'est l'après-midi, on pourrait changer un peu les habitudes. C'est vous qui avez prêché, moi je veux vous écouter. J'aimerais vous raconter une histoire, vous connaissez tous, peut-être pour réunir nos pensées. Hein. C'est un après-midi, on n'a pas l'habitude. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire qui n'est pas très cachère, c'est l'histoire des trois petits cochons. Est-ce que vous connaissez les trois petits cochons? Qui connaît l'histoire des trois petits cochons? Ben, tout le monde, voilà. Mais vous ne connaissez pas la vraie version. Vous allez voir qu'il y a un rapport avec le sujet que tu m'as demandé de traiter. En fait, le premier petit cochon, il est corse. Ça, vous ne le saviez pas. Premier petit corse, il parle comme ça. Bonjour, bienvenue en Corse. Ici, ce n'est pas des feux d'artifice, c'est des bombes. En Corse, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut construire sa maison soi-même. On va sur la plage, quelques morceaux de paille. Et on se met sur la plage, on attend les allocations familiales. En Corse, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur la plage, on fait que boire toute la journée, on attend juste les indemnités qu'on reçoit du continent. On est là juste pour profiter de la vie. On profite des gens qui sont là. On profite du beau temps. On profite de tout ce qu'on peut nous donner gratuitement. Et puis arrive quelqu'un. Le loup est dans sa petite paillote. Vous savez ce que c'est les paillotes, hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il est tranquille. Et qui est-ce qui arrive normalement dans l'histoire? Vous me suivez ou pas là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Normalement, les trois petits cochons, c'est pas un renard, hein? C'est une autre histoire. Ça, voilà. C'est un loup. Alors c'est vous le loup? Chaque fois que je dirais le mot loup, vous ferez ouh, parce que comme ça j'aurais l'impression que vous êtes encore là. Je vous dis, c'est l'heure de la sieste, hein? Je risque d'en perdre quelques-uns. Alors, vous êtes prêts? Alors, le loup. Ouais, il est asthmatique, le loup, aujourd'hui, voilà. On recommence, le loup. Voilà. Alors, on est sur la plage, tranquille, dans la paillote. On vit sa petite journée tranquille. Et arrive le loup. Je vais me contenter de ce loup-là, pour l'instant. Mais n'en loupez pas un. Hein. Le loup arrive, il fait le tour de la paillote. Il cherche le moyen de pouvoir manger le petit cochon. Il fait le tour une fois, deux fois, il tente un petit peu et il se met à souffler. Vous êtes prêts? Un, deux, trois. C'est vous les loups, hein, normalement, c'est pas moi. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous suivez l'histoire, mais... On recommence. Un, deux, trois. Une troisième fois. Et la paillote s'en va. Le petit cochon se trouve d'un seul coup complètement démuni. Il est obligé de se sauver. Sa maison n'a pas tenu le coup au troisième souffle du loup. Le voilà qui prend, non pas le bac, parce qu'il n'a pas les moyens de payer le bac, mais il se met à nager. Vous savez pas que les petits cochons, ça sait nager, mais ça nage. Ça arrive sur le continent. Et alors il arrive, il va voir son cousin le Suisse. Allez, mon pauvre ami, les cochons suisses. Je sais qu'il y a des gens qui sont d'origine suisse ici, hein, voilà. Ah, le cochon suisse, il est tranquille, lui, il habite pas une paillote, hein. Ça, c'est pour les Français, ou peut-être même pour les Corses, mais pas pour un Suisse. Il habite un chalet. Ah, c'est un chalet solide, hein. Ça appartenait à une cousine par alliance d'un grand-oncle qu'il avait reçu d'un héritage il y a au moins 200 ans, mon pauvre ami. C'est du solide, ça a vécu la neige, la tempête, tout, même les faillites des banques. Il est en train de se faire une petite fondue, parce que vous savez pas, mais les cochons suisses, ils mangent de la fondue. Quoi. Arrive le petit cochon corse, tout essoufflé, il frappe à la porte. Et le cochon suisse, il lui dit, mais... Qu'est-ce que tu veux? Qui c'est qu'elle a? Parce que là, je fais ma petite fondue. Ah, c'est ton cousin. C'est ton cousin de Corse. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le loup. Le loup? Voilà. Il y a le loup qui est arrivé. Oh. Ben t'inquiète pas, on donc, on va se faire une petite fondue à deux. Je rajoute un peu de fromage. Ici, t'es dans une maison solide. C'est du Suisse, hein. C'est pas du Français. Et même pas du Belge, hein. Rentre là-dedans. Il ferme, il y a tellement de serrures sur la porte, on dirait un coffre-fort. Hein. Bon, la Suisse est un peu connue pour ça. Hein. Et les voilà tous les deux en train de manger tranquillement sur le coin du feu. Ils se font une petite fondue. À ce moment arrive le loup. Ça va, vous me suivez? Il arrive, il fait le tour du chalet et il se met à souffler une première fois. Un, deux, trois. Ça marche pas. Deuxième fois. Ça marche pas. Troisième fois. On arrête. Alors il cherche dans sa fourrure, il est sous, vous savez pas, les loups, ils ont dans leur poche, ils ont des poches dans la fourrure. Et ils sortent un briquet. Il dit, ça. Ça, se dit le loup, Ouais, ça, je vérifie quand même de temps en temps. Hein. Il cherche un endroit sur le chalet qui est tout en bois. Il allume et voilà que le chalet se met à flamber. Le cochon suisse fait mon pauvre ami, mais alors ça c'est incroyable, ça c'est pas possible. On est obligé de fuir. Un Suisse qui fuit, c'est pas courant. Alors il passe par un souterrain, il va débarquer loin, loin, loin. Parce que s'il y a des coffres forts, il y a des souterrains aussi en Suisse, hein, voilà. Et il se met à courir chez un copain qui vient du centre de la France. Ils sont tous les deux à courir, le petit Suisse et le petit Corse. Ils arrivent complètement épuisés. Ils arrivent là-bas, dans le centre de la France. Ils parlent comme ça, le centre de la France. C'est un peu bourru, comme ça, une petite baraque. Ils ramassent des cailloux toute la journée. Ils sucent le caillou parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Voilà. Et ils arrivent près du chalet. Alors ils voient arriver ses cousins. Il fait, alors, vous faites quoi ici? Alors le Suisse qui a encore un peu de souffle, il fait, allez, on a le loup qui nous suit. Ouais, c'est bien, c'est bien. À la fin de l'histoire, ça devrait être rodé. Et alors, il fait, moi, j'ai pas grand-chose, une petite baraque, c'est des cailloux, de gros rochers, voilà. Un gros rocher, puis une tôle dessus, une porte en fer, mais pas grand-chose, voilà. On va se faire une soupe de légumes, voilà. Vous savez, comme ça, que les cochons mangent de la soupe de légumes, quand même, voilà. Ils rentrent dans la maison, ils ferment tout, et arrive le loup. À l'intérieur, on se pluche les légumes, un peu de carottes, un gros navet, une pomme de terre, pas grand-chose, quoi, un petit peu de jus, ça pas grand-chose comme au goût, un morceau de viande serait bienvenu, mais bon. Arrive le loup, il se met à souffler. 1, 2, 3. Il arrête tout de suite, il voit que ça marche pas. Il sort son briquet magique, il essaye d'allumer le toit, il essaye d'allumer la pierre, le métal, rien qu'il y fait. Mais il voit qu'il y a une cheminée. Il s'approche de la cheminée, il voit que c'est à peu près la taille pour lui, il se glisse dans la cheminée pour aller manger les 3 petits cochons. Entrée, plat, dessert. Il se glisse, à ce moment-là, le cochon, il y a quelque chose qui bloque là-dedans, il y a quelque chose qui bloque dans la cheminée, il y a de la fumée dans la maison. Alors il prend un gros bar en fer, il tape, et le loup tombe directement dans la casserole où il y a tout qui cuit avec les légumes. Ça tombe bien, on a besoin d'un morceau de viande. Et depuis, les cochons sont omnivores. C'est pas une belle histoire? Bon, on va revenir à des choses spirituelles. En fait, cette histoire, elle est tout à fait spirituelle. Je me pose la question aujourd'hui, qui est une question qui peut être universelle. On veut tous réussir dans la vie. C'est vrai ou pas? Mais on veut réussir quand on est jeune, quand on est moins jeune, quand on est encore moins jeune et quand on est un jeune d'un autre âge. On veut tous réussir dans la vie. On aimerait ne jamais se tromper, on aimerait avoir une espèce de réussite qui nous donnerait la paix, qui nous donnerait le bonheur. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, la santé, toutes ces choses-là. C'est vrai ce que je dis ou pas? Et pourtant, on est tous force de remarquer que c'est pas toujours vrai et c'est même plutôt faux. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Pas quelque chose forcément qui vienne de vous. Des fois, les choses qui ne vont pas nous viennent de nous. Mais des fois, elles viennent tout simplement de l'extérieur. Revenons à nos 3 petits cochons. Et vous allez voir que ça ressemble étrangement à quelque chose que nous avons dans la Bible. La parole de Dieu, ce que nous croyons être inspiré par Dieu. Le premier petit cochon, il a construit en Corse. Bon, ça pourrait être n'importe où, même en Suisse, à Charleroi, n'importe où. Il construit une maison en paille. La paille, c'est facile, ça se fait facilement. On profite des autres. En fait, on en fait le minimum et on aimerait que ce soit les autres qui nous apportent le bonheur. Je vous ai dit, il touche toutes les allocations, il vit tranquille, il vit du beau temps, il vit de ce que Dieu fait, ce beau temps, il vit de la plage, de l'endroit où il est, mais il ne construit pas avec quelque chose de solide. Ça marche un certain temps. C'est vrai ou pas ? On peut vivre, alors je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais il y a une expression, on appelle ça « sea, sex and sun ». Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est la mer, le sexe et le soleil. En fait, on vit de choses qu'on consomme, des choses qui nous font plaisir, comme le petit cochon corse. On peut être adolescent et se dire « ouais, mais on s'en fout des choses de Dieu ». Si, c'est bien Dieu, mais c'est pour plus tard, parce que pour l'instant, j'ai envie de vivre. On a l'impression que vivre, c'est juste obéir à nos instincts. Alors on peut, pas forcément sexe, ça peut être la richesse, la réussite, mais c'est ce que vous voulez derrière. Mais de toute façon, dans tous les cas, il arrivera un moment où le loup va venir. Le loup, c'est qui, c'est quoi? Le loup, c'est, ça peut être simplement la vie, la réalité de la vie. On aimerait vivre en dehors des autres, on aimerait tout faire mieux. Chaque génération pense faire mieux que la génération précédente. On pense toujours que, ouais, mais les vieux, ça c'était ton temps, hein. Ça, c'est assez amusant d'entendre cette expression. Oh, mais ça c'était à l'époque, maintenant il n'y a plus. De toutes les époques, il y a des formes d'addiction, de drogue, de toutes les époques, il y a eu des problèmes de comportement. C'est pas nouveau. Ça se sait plus. Mais c'est pas nouveau. De toutes les époques, toutes les générations, j'ai vu des personnes âgées qui vivaient n'importe comment. Des gens ont enfin envie de vivre libre. Mais vous savez, la liberté, ça se paye très cher. À un moment, le loup qui vient, ça peut être simplement nos erreurs qui nous rattrapent. La réalité de la vie. Le fait qu'à un moment, ben, il faut que je sorte de la paillote. Ou plutôt, la paillote prend feu. Et j'ai besoin de quelque chose de plus solide. Combien de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit « Oui, mais moi, je ne veux pas prendre un travail solide parce que je gagne plus en faisant de l'intérim. » C'est vrai. Puis il arrive un âge où, d'un seul coup, on ne trouve plus de travail. Il dit « Mais vous avez fait que de l'intérim toute votre vie. Il ne faut pas penser que vous allez avoir du travail solide. » Il y a des moments où il faut se mettre à l'intérieur de certaines règles. Ça peut paraître difficile, ça peut être contraignant. Se dire qu'à un certain âge, oui, mince, j'ai envie de vivre sans ces contraintes, je peux vivre sans être obligé d'avoir un contrat de travail. Toutes ces choses-là nous rattrapent. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être le monde dans lequel nous vivons, qui nous ramène et qui nous pousse à prendre conscience que ce que nous faisons, la manière dont nous vivons, nous entraîne vers le bas. Je ne suis pas trop vieux, j'ai 60 ans. Mais je me souviens de copains, quand on avait 14-15 ans, je viens des quartiers plutôt difficiles de la ville de Strasbourg, en France, et certains de mes copains n'ont pas dépassé les 15-16 ans, 17 ans. Ils me disaient, oh, on peut vivre, Joël, tu te prives de liberté. Certains sont morts du sida, d'autres sont morts tout simplement d'un excès de vitesse, un excès d'alcool, un excès de facilité. Certains sont encore là, mais dans un état lamentable. Certains m'ont recontacté sur Facebook, disant « Joël, il semblerait que tu aies réussi dans la vie. » On vient des mêmes quartiers. Mais un échec amoureux, après un autre échec amoureux. On pense toujours, là aussi, quand j'ai parlé de la partie sexe, c'est pas forcément le rapport sexuel. Ça peut être tout simplement le fait de vouloir ne pas s'attacher à quelqu'un. Ou plutôt s'attacher à quelqu'un sans projet. Rappelez-vous que la paillote, elle n'a pas de fondement. Elle est juste posée, plus on la déplace, là où on veut, là où je veux, jusqu'au jour où il n'y a plus d'endroit pour planter la paillote. Le deuxième petit cochon, il est suisse. Alors j'ai travaillé en Suisse, j'ai été pasteur en Suisse, et c'est intéressant de voir qu'il y a ces jolis chalets, n'est-ce pas? Quand on pense à la Suisse, on pense aux jolis chalets, n'est-ce pas? Un vieux chalet, ça c'est de la valeur, ça c'est de l'ancien, ça c'est du... Ça, c'est une autre manière de vivre. C'est une manière de vivre avec la tradition. On respecte bien tout. Mais on ne sait pas pourquoi. On a hérité d'un chalet, mais on n'a pas été constructeur nous-mêmes du chalet. Ce qui fait que lorsqu'il faut réparer, on ne sait pas réparer. Ce qui fait qu'à un moment, on vit dans des habitudes, mais on ne comprend pas pourquoi on fait les choses. Peut-être que tu viens à l'église depuis des années, peut-être qu'à un moment, tu te dis « je crois en Dieu » et toutes les choses roulent à peu près bien. Et d'un coup, il va y avoir peut-être quelque chose qui va aller de travers. D'un coup, le chalet, il n'est plus si bien isolé, ou peut-être il y a justement ces attaques. Encore une fois, le loup arrive. Le loup, ça peut être d'un seul coup la perte d'un enfant. Avec mon épouse, nous avons perdu un enfant. Et là, on se demande si le ciel existe. On sait en tout cas que la terre est profonde. On est habitué dans une tradition et d'un coup quelque chose ne va pas comme ça devrait être. On ne comprend pas. On ne comprend pas que d'un seul coup, ça peut être ces événements de la vie qui ne sont pas des habitudes, ces événements devant lesquels on doit faire face. Les choses ne font pas comme par tradition, pas comme c'est inscrit, comme c'est prévu. Et puis il y a aussi d'un autre côté le loup. que j'identifie aussi comme étant, si Dieu existe, je ne sais pas pourquoi il l'a permis, mais que le diable existe. Attention, le diable, ce n'est pas l'inverse de Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout, il est souverain. Le diable, c'est une créature que Dieu peut contrôler, que Dieu peut limiter. Et heureusement qu'il le limite. Qu'est-ce que c'est dans le cas du chalet? C'est tout simplement, d'un seul coup, croire qu'on peut construire sans fondement. Un chalet, ça n'a pas besoin de gros fondements non plus. C'est de croire qu'on peut faire avec ce que les autres ont fait, sans faire d'efforts nous-mêmes. Le diable, qu'est-ce qu'il peut nous insuffler? Il peut nous donner simplement l'idée que nous savons alors que nous ne savons pas. Croire que je connais tout ce qui est écrit dans la Bible, ou comme je le disais avec une dame il y a deux jours, enfin c'était plus trois jours, c'était jeudi, à un moment on me dit « oui mais quand même dans la Bible il y a des trucs bizarres ». J'ai dit « oui, vous l'avez lu ?»« Non ». Alors comment vous savez qu'il y a des trucs bizarres ? Vous savez que 99% des gens qui disent que c'est pas crédible, ils l'ont jamais lu. C'est quelqu'un qui ne l'a pas lu qui leur a dit que c'était pas crédible. C'est un peu ça, le chalet en bois. On rapporte ce que les autres disent, mais on n'a pas de conviction personnelle très profonde. Ce qui fait qu'au moment de la difficulté, au moment où il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel, mais ça peut être aussi quand on croit déjà dans Dieu, d'un seul coup, on se casse la figure et on tombe très très bas. Parce que les matériaux avec lesquels nous avons construit notre vie sont juste un héritage. Mais je me suis pas approprié. Voilà. Reste la troisième maison. La troisième maison, c'est une maison en pierre et en tôle. C'est pas forcément la plus jolie des maisons. La particularité d'une maison en pierre et en tôle, c'est qu'on a besoin d'un architecte pour construire. Les deux premières maisons, vous pouvez les construire simplement sur plan. Et on ne peut pas construire une maison tout seul, parce que soulever les cailloux, ça fait très très mal au dos, n'est-ce pas? Cette maison qui semble pas très jolie, elle va résister. Pour quelle raison? Parce qu'il a fallu, comme je l'ai dit à l'instant, un architecte pour lui donner les plans. On ne construit pas une maison en pierre simplement parce que j'ai envie de construire une maison en pierre. Je suis sûr que vous avez construit des cabanes quand vous étiez plus jeune. Ou les jeunes ont construit des cabanes. On va dans la forêt avec deux, trois trucs, ou même à la maison. On prend une couverture, on fait quelque chose, on se met sous la table. Mais construire une maison en pierre, vous ne pouvez pas simplement dire « je prends un caillou, je le pose ». Je me rappelle même, pour juste faire un mur de soutènement, j'ai un de mes amis, un de mes voisins qui était dans la construction, il venait monter le mur dont j'avais besoin à l'époque, et il me disait « je pose d'abord les cailloux, je choisis les cailloux l'un après l'autre, pour les mettre juste à la bonne place ». Pour qu'une maison en pierre tienne, il faut que les pierres soient toutes à leur forme, toutes à leur place. Ce sont des matériaux solides, c'est des choses qui sont éprouvées. Le caillou, il semble inerte, mais il est là depuis longtemps, il restera après vous. La tôle, ça semble pas joli non plus, mais c'est quelque chose qui résiste avec le temps également. Elle ne brûle pas, elle résiste au vent quand elle est bien fixée. Cette maison, elle est solide parce qu'elle a fait appel à quelqu'un d'autre pour qu'elle construise. Et surtout, quand on construit avec de la pierre, on est obligé de faire un fondement. C'est-à-dire, avant de poser les pierres, il faut que je nettoie. Il faut que je sois sûr que ça aille profond. Et des fois, on doit mettre les pierres profondes, comme dans nos vies, il y a besoin des fois de changer les choses profondément. On croit simplement dire « oui, alors moi je crois et puis c'est bon ». Non ? À un moment, il faut que ça soit plus profondément que les choses soient là. On ne croit pas en Dieu simplement parce qu'on a une émotion. Oh ouais, ça a l'air super, c'est génial, il y a de l'ambiance. On croit en Dieu parce que d'un seul coup, on a besoin de fondement. On a envie de construire pour du durable. On a envie de réussir dans la vie, on a envie d'être en paix. Et on va voir ça dans un instant. Je vous propose de prendre un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 7. Je ne sais pas si Walt Disney, qui a écrit l'histoire des trois petits cochons, s'est inspiré de la Bible. Mais vous avez un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7 qui ressemble étrangement à l'histoire des trois petits cochons. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est Jésus qui parle. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, le point de départ pour pouvoir connaître Dieu, connaître Jésus, le point de départ, c'est de se rendre compte d'abord que je me trompe moi-même. Je peux croire que je sais. Je peux même utiliser ce que les autres ont fait. La croyance de mes parents, mes voisins, mon grand-père, la croyance de mes enfants ou de mes petits-enfants. Je ne sais pas comment et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Mais posez-vous la question si à un moment où vous êtes d'un seul coup laissé imprégner de la présence de Jésus. Jésus, c'est celui qui veut construire en profondeur. Et c'est intéressant parce que Jésus sait déjà que votre maison va subir la tempête. Il n'a pas dit, oui, tu crois en Dieu, tu verras, c'est super, c'est cool. Ça, c'est la paillote, vous savez ? Il n'a pas dit non plus que parce que tu crois, tu verras, tout ira bien. C'est solide, mais voilà. Non, non. Il ne parle pas de simple pluie. C'est bien d'une tempête et de choses difficiles. La vie est faite de choses qui ne sont pas faciles. Heureusement, pas que de ça. Mais le problème, c'est justement ces événements, le loup qui intervient, qui vient troubler notre habitude. Alors généralement, on se rattrape un petit peu. Et puis on dit, ouais, bon, alors c'est du passé, on essaie d'oublier. Mais on nous dit que c'est toute notre vie ici qui peut être sujette au vent, à la tempête. Tout peut se déchaîner. Alors je te pose une première question. Quel que soit ton chemin avec Dieu, qu'il ait commencé ou qu'il n'ait pas commencé, aujourd'hui tu fais quoi comme matériau dans ta maison ? Est-ce que tu penses, parce que avec les expériences de la vie, et que tu es chrétien, entre guillemets, depuis longtemps, ou chrétien, entre guillemets, je veux dire par là, vraiment chrétien, hein, quelqu'un qui a choisi de suivre, est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore appel aux matériaux de Dieu, ou tu connais et tu utilises ce que tu sais ? Peut-être que tu n'as pas encore vraiment fait de choix avec Dieu, tu connais un peu Dieu, tu as envie d'en savoir un peu plus. Mais on ne se sert pas de Dieu, c'est lui qui crée le fondement de ta vie. La profondeur, la solidité, pour la durée. Avec quels matériaux tu construis ? Et j'irai même plus, car je vous rappelle qu'il fallait parler d'un architecte. Avec qui tu construis ta maison ? J'ai rencontré un vieux monsieur, quand j'étais pasteur dans le sud de la France. Depuis, on m'a puni, on m'a dit « tu iras en Belgique ». Non, je rigole. Ce vieux monsieur, à un moment, il a dit, il avait déjà, je calcule son âge, il avait 70 ans, 70 ans. Il avait 70 ans, il a dit, il était célibataire, il a eu une vie très difficile, un monsieur qui a été déporté, enfin, qui a, je passe sur les détails, mais il a tout le temps été persécuté, en partie à cause de sa foi, monsieur russe. Et à un moment, quand il a eu 70 ans, il a dit, ah, faut que je me marie. Il n'avait pas envie de vivre tout seul. Et il dit, mais pour pouvoir se marier et avoir de l'avenir à 70 ans, il est mort à 107 ans. Hein. Mais à 70 ans, il dit, il faut que j'ai une maison. J'ai besoin d'une maison. C'est un monsieur qui a vécu des choses difficiles. Il s'est marié, 20 ans plus tard, sa femme est décédée. Il s'est marié à 80, pratiquement, un petit peu moins de 80. Et il m'a dit une chose qui était incroyable, malgré toutes les difficultés qu'il a eues dans la vie. Il a été déporté en Russie, enfin il a... Dieu est toujours bon. Et je dis, comment tu peux dire ça ? Parce que ma maison est toujours solide. Il ne parlait pas des quelques murs qui servaient de maison, qui lui ont permis de se marier. Il parlait de quelque chose de plus solide. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître Jésus, c'est pas simplement pour qu'il te serve, c'est pour que lui te serve, qu'il te donne des murs solides, car les tempêtes arrivent, pour te donner des murs solides pour construire aujourd'hui, pour pouvoir prévoir un avenir. Est-ce qu'on peut regarder un autre texte ensemble ? En ce moment, il y a des moments troubles, n'est-ce pas ? On ne sait plus trop s'il faut regarder en haut ou en bas, à l'est ou à l'ouest. Je suis marqué par ce qui se passe en Israël. Je suis marqué par ce qui se passe en Ukraine. Je suis marqué par ce qui se passe en Arménie. Je suis marqué par ce qui s'est passé en Afghanistan, ce tremblement de terre, par ce qui s'est passé au Maroc. Si vous avez une petite heure, je peux vous dire par tout ce que je suis marqué. Ce sont autant de coups de poing. Autant de coups de poing qui pourraient ébranler la maison que je suis. J'ai de la famille en Israël, certains le savent, puisque mon père est né en Israël, mon grand-père est né en Israël, mon arrière-grand-père, ça fait 150 ans que nous sommes en Israël. Forcément, on est sensible quand on a de la famille quelque part. Il ne s'agit pas de faire de la géopolitique maintenant. Mais quand les gens souffrent, on se pose tous la même question. Et la grande question que tout le monde pose aujourd'hui, peut-être avec vos collègues, vos voisins, ou même vous, vous posez la question, mais pourvu que ça n'arrive pas ici, et beaucoup de nos gouvernements ne disent rien parce qu'ils ont peur de se prendre quelque chose ici, et nous-mêmes, on se dit, mais est-ce que la paix peut exister ? Là-bas, mais est-ce que nous sommes en paix ici ? Sommes-nous en paix ? Es-tu en paix ? Alors on va prendre un texte qui se trouve dans Matthieu 11, un tout petit peu plus loin, verset 28. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, c'est juste ? Pour une fois, c'est l'après-midi. Mais à quoi sert le dimanche ? Vous savez-vous à quoi sert le dimanche ? À travailler au noir. Non, pas ça. Notre dimanche, ça sert vraiment à se reposer. En fait, c'est intéressant de voir que il y a deux épisodes qui se passent dans cette première alliance. Je dis première alliance plutôt qu'ancienne, parce qu'ancienne, on pense qu'on n'a plus besoin. Donc, je dis première alliance, l'Ancien Testament. Dieu donne deux choses incroyables. La première chose, il dit, vous aurez un jour de repos. Et vous vous occuperez de moi. Petit à petit, avec le temps, la partie que nous consacrons à Dieu le dimanche devient de plus en plus petite. On nous demande, en tant que prédicateur, à être le plus court possible. Donc c'est déjà foutu, là, hein, j'ai déjà dépassé les... On nous demande d'être le plus court possible. On demande à ce que les choses soient le plus ramenées. Et si on a une réunion supplémentaire, ça devient compliqué. C'est vrai ou pas ce que je dis ? Tu comprends, on a des choses à faire. Tu comprends, on a de la famille. Oui, je comprends toutes ces choses. J'ai aussi une famille, j'ai deux enfants, 21 et 25 ans. Mais je ne peux pas séparer le fondement de ma vie avec le rythme que Dieu m'a donné, parce qu'il en dépend une chose importante, c'est que je puisse me reposer. Et j'ai besoin de repos. Et si Dieu a placé le dimanche, c'est pas simplement pour qu'on ne fasse rien. Parce que le dimanche correspond au septième jour. Ça pourrait être plutôt Shabbat, donc, mais le samedi, mais peu importe. Si c'est le septième jour, ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, ne fait rien. Aujourd'hui, Dieu s'occupe de chacun d'entre nous, il s'occupe de toi. Il connaît exactement tes besoins en matériaux pour la construction de ta vie. Quel que soit l'âge que tu as, d'ailleurs. Mais la chose qu'il dit au départ, si tu veux me connaître, je suis l'architecte, je veux construire ta vie, mais je veux te reposer. Te reposer de ces attaques du diable, de ce loup qui intervient, ce loup qui représente à la fois le mal qui nous agresse, qui nous empêche de voir la paix, et en même temps, le mal qui est en moi. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire tout le bien que je veux faire. » Je dis des fois à des personnes qui ne croient pas, elles me disent « mais c'est tout à fait moi ». Je dis « pas, vous inquiétez pas, c'est tout à fait nous ». Mais il faut chercher la réponse. Matthieu 11, verset 28. C'est Jésus qui demande cette chose-là à chacun d'entre nous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » On s'arrête là d'habitude. Alors moi, je demande Jésus, puis ça va aller, quoi. J'appelle, un peu comme on fait, je sais pas moi, un truc sur Internet, une commande, quoi. Mais il y a une suite. Je crois effectivement que Dieu me donne du repos. Quand nous avons perdu notre fils, je pense que c'est une des épreuves les plus lourdes qu'on peut avoir dans une famille. J'ai demandé à Dieu du repos. Parce que si je continue à croire en Dieu, je me suis dit à un moment, est-ce qu'il est encore juste ? Et j'ai eu besoin de repos pour retrouver la justesse de Dieu. Il peut vous arriver à chacun d'entre vous de ces malheurs. Est-ce que la maison va résister ? Ou est-ce que vous trouverez la réponse dans le repos de Dieu ? Écoutez la suite. Pour être dans ce repos, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Chers amis, vous voulez connaître Jésus ? C'est pas celui qui s'occupe d'abord de votre niveau d'études, de vos résultats à l'école, de votre situation amoureuse, de votre maladie. Il peut s'en occuper, bien sûr. Mais le plus important, c'est le repos de l'âme. J'ai un oncle qui n'a jamais manifesté son désir de connaître Dieu. Il connaissait. Au décès de ma maman, quelques heures avant de mourir, c'était pas du tout prévu dans le sens où ça s'est précipité en quelques heures, j'étais avec ma maman à l'hôpital, je dis « qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « d'abord, je veux que ça soit toi qui fasses le service. » Ouf. Elle m'a donné le chant qu'il fallait pour le... Elle m'a dit « pour le reste, tu prêches l'évangile. L'important, c'est d'avoir une vie remplie de Dieu. » Et après, elle m'a dit la chose suivante, « on va prier pour la famille, pour qu'ils connaissent le Seigneur. » Et elle est décédée quelques heures plus tard. Mon oncle, un de mes oncles, 82 ans, à l'époque, 82 ans, s'est fait baptiser quelques mois plus tard. Et la chose intéressante, c'est quand il est sorti de l'eau, il a dit « il est maintenant temps que je porte du fruit ». Est-ce qu'il allait construire une maison ? Est-ce qu'il allait se remarier ? Il était veuf ? Non. Son âme est renouvelée. Quel que soit l'âge que vous avez ici, Dieu est capable de guérir votre âme pour que vous puissiez continuer à porter du fruit. À avoir une maison qui accueille comme le troisième petit cochon. Laissez-vous transformer. Mon autre oncle, décédé plusieurs années plus tard, mais à peu près au même âge, 87 ans, 6 ans, il a eu un cancer, il fait partie de ces gens qui serrent les dents plutôt que de dire qu'ils ont mal, ce qui fait que le cancer était très avancé. Quelques 2 jours avant qu'il décède, je lui dis « Tonton, tu veux que je prie pour ta guérison ou pour la paix de ton âme ?» C'est dur hein, pour quelqu'un qui souffre et qui a eu une vie bien remplie, qui a eu plein de choses, plein de projets. On allait dans sa maison, il y avait encore plein de projets en cours. Et il m'a dit avec ses mots, il avait du mal à parler, pour la paix de l'âme. Préoccupez-vous de votre âme. Jésus est venu pour donner une paix. Je vous l'ai dit, je suis préoccupé par tout ce qui se passe dans le monde. Mais ma première prière, c'est que vous ici... Et c'est pour ça que je suis là aussi et que je suis motivé. C'est que vous ayez déjà la foi ou que vous n'ayez pas encore, vous puissiez vous préoccuper de votre âme. Toujours et encore, quel que soit votre âge. Est-ce que je suis prêt ou loin de Dieu ? Et il y a la recette. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire. Ne négligez pas la lecture de la Bible. Ne négligez pas les études bibliques, la prédication, la prière. Ça paraît un peu long. C'est un peu comme l'éternité. Des fois, les gens me disent, on va être toute l'éternité avec Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis, au début, c'est un peu long, mais à la fin, on s'habitue. Voilà. Je ne sais pas toutes ces choses-là, mais je sais que j'ai 60 ans, j'aime faire du sport, j'écoute du rock, je suis pas un très bon pasteur peut-être, je sais pas. Je vis normalement, mais ma préoccupation première, c'est mon âme et celle de mon prochain. Le reste nous sera donné en plus, n'est-ce pas ? Cherchez la face de Dieu, le royaume de Dieu. Mais écoutez la suite encore au verset 30. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. C'est l'humour de Dieu. Suivez-moi, vous verrez, ça sera difficile. C'est ce qu'il dit, il avertit. Croire en Dieu, c'est juste se dire que le loup continuera à venir, les problèmes continueront à venir dans votre vie, mais ne les évitez pas. Votre maison est solide. Elle est construite sur le roc. Elle prendra des chocs, comme j'en ai pris et j'en prendrai encore. Mais elle est solide. Lisons un dernier texte. Vous acceptez que je lise encore un autre texte ? C'est pas trop long ? On fait un vote, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord ? Voilà. Ce texte se trouve dans l'épître de Jean. Je ne veux pas faire l'économie de ce texte. 1 Jean 1. C'est 1 Jean 1, verset 8. C'est là. Écoutez bien ce texte, et nous lirons un autre texte après dans Matthieu, mais lisons-le. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. J'aimerais juste vous interpeller avec cette troisième verset, toujours dans la même lignée. Connaître Dieu, c'est se laisser ausculter par Dieu. Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il n'est pas un pécheur ? Pécheur, ça veut dire quoi ? Faire du mal ? Pécheur, c'est d'abord ne pas vouloir avoir Dieu au centre de sa vie. Le reste, ça a conséquent. Mais est-ce que Dieu est le centre de ta préoccupation ? Est-ce que Dieu est le centre de ta vie ? Moi, je faisais un très très mauvais métier avant d'être pasteur. J'étais banquier. Non. Et je faisais mon métier avec tout mon cœur, et déjà en tant que chrétien. Quand j'ai quitté mon travail pour dire que j'allais faire des études de théologie, mes clients, bon, ceux qui ont compris ce que ça voulait dire théologie, parce que certains savaient pas ce que c'était, mais quand je leur disais, je fais de la théologie, c'était intéressant parce qu'ils me disaient, on se disait bien qu'il y avait un truc bizarre chez vous. Je préfère passer pour quelqu'un de bizarre. Mais est-ce que j'ai toujours besoin de Dieu? J'ai toujours besoin de Dieu parce que je suis toujours pécheur. C'est-à-dire, il y a bien des circonstances, même en étant pasteur, où je me fais passer avant Dieu. Certains moments où j'ai envie que Dieu me suive plutôt que moi je suive Dieu. On a tous comme ça, quel que soit notre âge. Il y a des moments où on oublie que tout ce qui est bon et juste nous vient de Dieu. Tout ce qui doit être... Tout ce qui préside à ma vie correspond au Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'on est un peu pour quelque chose dans l'histoire. Ça veut dire qu'on puisse toujours, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, connaître celui qui veut construire des maisons solides, celui qui nous avertit qu'il y a des tempêtes, celui qui veut pardonner notre cœur, celui qui veut nous réconcilier avec lui. Ce nom-là doit être connu. C'est ça, être sanctifié. Que personne ne se moque de Dieu. La deuxième chose, que l'on soit sanctifié, que ton règne vienne, non, ça c'est la fin, c'est que ta volonté soit faite. On aimerait tous avoir un petit carnet où le Seigneur nous envoie exactement les données et tout. Hein. J'aimerais juste vous dire que quel que soit l'endroit où vous êtes avec Dieu, engagez-vous et vous entendrez. Dieu désire simplement que là où nous sommes, nous puissions apporter la vraie paix. La paix qui vient de la réconciliation avec Dieu, qui est certaine. Vous êtes fâché avec Dieu, dites-lui. Il écoute. Ne le gardez pas pour vous-même. Terminons juste par cette lecture de Matthieu 14. Encore un texte que j'aime bien. Je me récalais le texte que j'aime pas. Hein. Matthieu, c'est Matthieu 14. Non, c'est Jean 14, pardon. Jean 14, verset 27. Je termine avec ce texte-là. C'est promis, c'est la fin. Jean 14, verset 27. On revient au tout début du message que je vous ai apporté. Je vous laisse la paix. C'est Jésus qui parle. Je vous donne ma paix. Écoutez bien après. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes avec Dieu. Alors prenez le temps de demander à Dieu sa paix. Les temps sont troubles. Peut-être vous vivez des choses difficiles, vous êtes peut-être malade, ou il y a des choses que vous n'avez toujours pas compris, pourquoi Dieu vous avait permis que cela se passe. Vous faites partie de ces maisons qui subissent la tempête. Et à un moment, peut-être, vous avez perdu une partie de la maison. C'est peut-être il y a longtemps, c'est peut-être il n'y a pas longtemps. Revenez. Revenez sur les fondements de Jésus-Christ. C'est lui qui peut construire. C'est lui qui peut reconstruire. Il peut re-reconstruire. C'est pas lui qui détruit. N'oubliez pas que le loup, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, c'est l'architecte qui veut continuer à faire de votre maison une maison solide. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur pleinement. Et si vous l'avez accepté longtemps, posez-vous la question s'il est toujours là, ou si d'un seul coup, vous avez un petit peu construit par vous-même. Dieu est capable des plus grands miracles, de retransformer ce que vous avez construit avec vos propres matériaux en quelque chose de solide pour aujourd'hui. Je serai là, je vais rester encore après la réunion, si certains veulent discuter avec Mehdi ou moi-même, ou les anciens ici. Mais posez-vous ces questions-là maintenant, pendant quelques instants. Où est-ce que j'ai placé Dieu ? Comme fondement ? Comme appel d'urgence ? Est-ce que je l'ai placé comme fondement, mais je l'ai peut-être un peu oublié ? Suis-je parti dans la tradition plutôt que dans le vivant ? Allez, soyons le troisième petit cochon. Est-ce que vous acceptez que je prie ? Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui transforme les vies. Tu ne veux pas forcément transformer le monde, tu veux transformer les gens qui sont dans ce monde. Car tout ce que tu as créé a été vu comme bon. Pardonne-nous, Seigneur, aujourd'hui nos offenses et aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Aide-nous, Seigneur, à accepter tout ce que nous recevons jour après jour, ce pain quotidien, comme venant de ta main. Tout est suffisant, même lorsque nous pensons qu'il manque, nous savons que tu pourvois profondément. Seigneur, reconstruis, construis, stabilise nos vies et donne-nous de pouvoir regarder l'avenir comme étant fait de ta paix. Nous savons qu'il y aura des tempêtes, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour calmer les tempêtes et faire de nos maisons des maisons solides dans un monde instable. Viens, Seigneur, au milieu de nous. Viens dans nos vies, viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.